Combien je vous dois ?
Youhou ! Après près de 2 mois d'absence, de vacances, non je déconne, c'était pas vraiment des vacances, revoilà, raconte-moi des salades, on reprend du service avec une super émission sur un jardin-forêt, l'association La Forêt Gourmande, basée à Dicône en Bourgogne. Et croyez-moi, ça déconne pas chez Fabrice, qui est installé là-bas depuis près de 10 ans et que vous allez entendre dans l'émission nous parler de son projet. Et j'ai eu l'occasion également de passer du temps sur la formation qu'il dispense autour de ce jardin forêt. Vous entendrez donc des extraits et quelques-uns de nos balades en forêt. C'est parti!
Bonjour Fabrice, du coup tu es le recréateur de la forêt gourmande ici à Dicône en Bourgogne. Et pour commencer l'interview, je vais te demander un peu qu'est-ce que c'est la forêt gourmande, depuis quand ça existe et quel était l'objectif en créant ce lieu.
Bonjour Pauline, le jardin forêt rentre du coup dans sa 9e année. Au départ, c'était une prairie de 2,5 hectares. Il n'y avait vraiment rien du tout au niveau, on va dire, végétation, hormis des herbes de prairie. Là, du coup, on est sur déjà une plantation qui regroupe plus de 1000 espèces qui vont être alimentaires, utilitaires, médicinales. Donc des plantes qui, pour l'immense majorité, sont des plantes pérennes, qui vont demander un petit peu de temps à l'installation et qui après vont entrer en production. Donc on est sur des fruitiers classiques, sur des légumes pérennes et on est sur plein d'autres plantes qui sont relativement peu connues mais qui vont produire par exemple des azéminiers qui vont faire des sortes de mangues, des torreillas qui seront des conifères qui vont produire des noix à l'ombre, des ovnis sucrés qui sont des desserts en Asie et qui sont sucrés comme des raisins secs avec des arômes de poire. Exemple.
Vous m'entendez bien tous et toutes du coup ? Ça va ?
Ouais.
Donc là on a un chablis naturel, un arbre qui était âgé et qui a dégringolé, qui va faire une petite ouverture, on en avait déjà une. On peut imaginer compléter en un peu plus de lumière. Là on va implanter un azéminier, vous voyez, où à un moment donné il aura un peu de lumière, je pense que ça va lui suffire pour s'implanter. Peut-être après il faudra élaguer 2-3 branches basses, ce qui n'est pas un problème. Je crois que j'en ai pas parlé des élagages naturels, mais ça se fait spontanément chez les arbres qu'on peut voir. Quand ils ont des ramures qui sont beaucoup trop basses et qui sont trop à l'ombre, ça devient plus intéressant pour eux parce que le coût énergétique n'est pas rentabilisé par la photosynthèse qui ne se fait pas. Donc les branches basses vont mourir et elles vont tomber dans le temps. Hein. C'est vraiment l'élagage qui se fait comme ça spontanément. Et donc le fût comme ça, la plante continue à s'ériger vers la lumière.
Du coup, Fabrice, qu'est-ce que c'est un jardin forêt et comment ça marche ?
Alors, un jardin forêt, c'est ce qu'on peut aussi appeler un jardin boisé. C'est-à-dire que quand on observe une forêt, on se rend compte que personne ne l'arrose, personne ne la fertilise. Et cependant, c'est la plus grosse production de biomasse possible sans aucune intervention. On est sur des systèmes qui sont extrêmement résilients, qui hébergent énormément de formes de vie et qui vont stocker du carbone, qui vont être vraiment une réponse globale à tous les enjeux environnementaux actuels. Tout l'enjeu, c'est juste de faire des systèmes de production agricole, une production vivrière qui vont imiter ces paysages naturels forestiers. Donc un jardin forêt, c'est quelque chose qui va être recréé par un humain dans un endroit donné. Donc ça peut être sur des toutes petites surfaces. On peut partir sur 400 mètres carrés, par exemple. Ça peut être dans un espace urbain, ça peut être sur des grandes surfaces à la campagne. Et on va travailler en différents étages, du coup des arbres qui vont être grands, des arbres de canopée, des arbustes, des buissons, des lianes, toutes sortes de plantes herbacées et pourquoi pas aussi des plantes aquatiques qui vont également être alimentaires. Donc tout est associé comme ça de façon efficace et étudiée pour que tout s'auto-entretienne. Et on est juste à se promener dans ces paysages et à faire des récoltes au bout de quelques années.
Quand vous avez cette forme-là qui va s'établir, l'arbre va s'établir, si on le perturbe à un moment donné, il va réagir en établissant toute une colonie. Donc il va falloir attendre qu'il grandisse, qu'il fasse tout son système racinaire. Et l'idée, c'est que juste en perturbant en 5 minutes 2 arbres, on va remplir toute la clairière d'azimine. Ça se fait la même chose avec, par exemple, les acacias. Regarde cette petite bête jolie. Si un arbre, un acacia, vous le coupez, il va réagir au niveau de donc, tout son système racinaire qui va être traçant. Il y a des yeux dormants, il y a des bourgeons qui sont en dormance. Ils vont être réactivés parce que l'arbre s'est fait dégommer. Et vous allez avoir toute une forêt qui va s'établir, mais ça va être une population de clones. Hein, ça va être le même individu qui va établir comme ça un boisement.
Certains types d'arbres qui font ça,
c'est certains types d'arbres,
oui. Le but du jardin forêt, donc on va dire qu'il y a trois grands buts. Un but qui est hybridé, production familiale. Un but commercial possible, mais qui ne vous intéresse pas là, je pense, aujourd'hui. Et un but pédagogique, participatif.
Donc on va détailler un peu les trois grands buts, en sachant que dans tous les buts possibles, la conception, elle peut être soit anthropocentrée, du coup, d'une façon complètement inconsciente, on a l'impression que la nature est là pour nous servir, et ça, je pense que malheureusement, collectivement, on est complètement programmé pour tout faire dans cette logique-là, et qu'on devrait se poser cette question-là dans tous les actes de la vie quotidienne. L'autre conception possible, évidemment, est éco-centrée ou biocentrée, c'est-à-dire que on se rend compte que la planète ne nous appartient pas et qu'on doit partager tous les territoires avec le reste du vivant. Ce qu'on peut faire clairement dans ce type de présentation de jardin-forêt que vous avez vu ici, c'est une manière de présenter le jardin-forêt, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus structurés, qui sont beaucoup plus paysagers, et on n'invite pas forcément les ronces, par exemple, ou les orties, ou voilà, on n'a pas certaines plantes parce qu'on les considère comme possiblement problématique ou envahissante. Alors ici, c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit les trucs, mais ce qui est envahissant ou ce qui produit beaucoup de biomasse est intéressant parce que forcément on a un stockage de carbone. Souvent la biomasse produite, elle va être alimentaire ou utilitaire aussi aux animaux qui peuvent nous accompagner, et ça peut avoir d'autres utilités comme le bambou hein, pour faire des structures qui vont être pérennes. En autonomie familiale, évidemment, les possibilités sont quasiment infinies. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais on est sur une palette végétale qui peut être sur plusieurs milliers d'espèces possibles alimentaires en climat tempéré. Sur des autonomies familiales, ça va être couplé aussi des fois à d'autres projets de vie. Ça peut être des accueils de public parce qu'une personne va faire quelque chose de thérapeutique. On peut imaginer des séances de yoga, de méditation ou de toute autre chose dans un jardin forêt. L'accueil de famille, d'amis, où on va avoir une zone vraiment qui va être dédiée à ça. Si vous faites de la musique ou vous avez envie d'inviter des potes pour faire de la musique, il peut y avoir aussi voilà, des petits spectacles qui se mettent en place. Mais ce zone,
donc d'après ce que tu nous dis, on peut trouver des jardins-forêts dans pas mal de lieux différents. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer un réseau de jardins-forêts à l'échelle de la France, à l'échelle d'une région et qu'est-ce que seraient les ingrédients pour réussir à créer ces jardins-forêts ou ce réseau de jardins-forêts?
Alors les ingrédients, ce serait déjà de faire connaître davantage la technique hein, et puis les plantes du coup qui sont associées à ça et les possibilités, tous les avantages qu'offre l'agroforesterie. Alors oui, on peut tout à fait imaginer qu'il y a déjà un éveil, hein, et puis énormément de projets qui sont en train de naître un peu partout. Des personnes qui travaillent sur ce type de jardin-forêt depuis déjà des années. Il y a la forêt nourricière avec Franck Natier par exemple dans l'ouest de la France. On a aussi d'une façon différente mais très intéressante aussi les travaux de Natacha Leroux à Permaforêt dans le Morvan. Il y en a bien d'autres. Alors il y a des sites qu'on peut commencer à visiter, des jardins forêts aussi qui vont être participatifs et collectifs comme à Grande-Synthe dans le nord de la France, également à Saint-Étienne ou à Marseille. Il y a des projets qui naissent vraiment partout, des projets privés, des projets collectifs, participatifs. L'idée, c'est voilà, c'est de revégétaliser, de reforester d'une façon intelligente avec des plantes comme ça qui vont nous nourrir et qui vont structurer les paysages, qui vont relancer des grands cycles de vie comme ça, stocker du carbone. Faire en sorte que le climat soit beaucoup plus supportable à l'avenir et faire revenir voilà, tous ces animaux qui ont besoin d'habitat et besoin de nourriture pour pouvoir vivre. Donc, on est au début, on va dire, de quelque chose, d'un processus qui est, à mon sens, complètement révolutionnaire. C'est qu'on a bâti notre civilisation autour notamment des céréales. On peut avoir cette logique de la bâtir autour en partie des arbres, d'arbres nourriciers, et vraiment de travailler sur le partage, sur les échanges, la diffusion, exactement à l'image des champignons, hein, qui, les champignons, ça fait 450 millions d'années, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du compartiment le plus riche pour redistribuer au compartiment le plus pauvre, et on est dans des fonctionnements vraiment de symbiose, de mutualisme, de partenariat, c'est vraiment ça qui définit la nature et qui définit aussi la création de jardins forêts.
Ok, donc on espère qu'on va pouvoir pousser des jardins forêts encore plus et un peu partout. Et du coup, tu nous parlais d'expériences. Est-ce que vous aussi, vous faites des expériences ici sur le jardin? Est-ce que tu peux nous parler de quelques expériences sur le jardin ou en forêt que vous faites ici
Alors oui, il y a tout un pôle d'expérimentation, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. On est par exemple sur l'étude, on a 80 cépages qui ont été introduits, des cépages qui viennent par exemple de tous les coins de la planète, incluant l'Ouzbékistan, la Syrie, l'Argentine. L'idée est de voir comment ça peut se comporter, de faire des croisements après avec des variétés plus locales et d'avoir un pool génétique qui va être extrêmement intéressant. L'idée aussi est pas nécessairement justement de tout le temps partir sur des fruitiers classiques, sur de la greffe ou du bouturage ou du marcottage pour la plupart des plantes, mais vraiment à partir de graines, de semis, pour permettre aux espèces de continuer leur évolution. Les plantes, elles ont besoin de se reproduire comme les animaux, par sexualité, pour aboutir à des individus qui vont être génétiquement absolument uniques. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, sur les pommiers, on peut travailler sur la diversité des pommiers du Kazakhstan, par exemple, sur voilà, comment les plantes vont se comporter. En tout cas, l'idée, c'est de se dire il faut travailler avec un pool génétique qui est vraiment très, très important, tel que la nature le conçoit, et voir comment ça se comporte. Voilà, c'est une des voies d'expérimentation, des choses qu'on fait ici.
Au départ, on a quelqu'un qui met les forêts, puis voilà, il y a une plante qui s'est plantée. Et du coup, il ne l'a pas vendu, il a mis une plante. C'est pas idée du coup de ça. L'idée, c'est dans les clairières de faire des plantations, là pour le coup, dans le sens forêt comestible, donc pas forcément des légumes ou peut-être à faim, mais des arbres qui vont être productifs à l'intérieur de la forêt. De la garder sous un format, c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes peuplements, il y a des endroits très ombragés, des endroits lumineux, il y a des vieux arbres qui sont en train de péricliter et qu'on va laisser comme ça évidemment être infestés d'insectes et tout. C'est pour ça que j'avais eu le type du groupement forestier au téléphone. Au bout de 2 minutes, je pense qu'on était passé déjà en mode insulte.
Vous ne pouvez pas laisser développer cette maladie.
Je lui dis, et il me dit, mais pourquoi vous, si vous voulez faire cette forêt est intéressante d'un point de vue biologique. Ah là, putain. Mais cette forêt, elle vaut rien. Alors, je vais me faire rappeler les crétins. Les écologistes, j'en ai marre avec vos écrevisses dans les rivières. Ah là, j'ai une espèce de vieux con. Ah putain. Ouais, un bel échange. Mais ça pouvait finir que comme ça. Il y a des fois, voilà, hein, le conflit est inévitable.
Production professionnelle. Alors, il y a plein de gens qui viennent juste pour ça, hein, parce qu'ils veulent vivre dans un jardin forêt qui va être partout. Donc voilà, linéaire. On a le modèle un petit peu de Stéphane Sobkowiak, c'est aux fermes Miracle au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. On est sur des modules de plantation comme ça, d'arbres fruitiers classiques. Lui, il a adjoint pas mal de fixateurs d'azote. Alors ça, je répète, mais je l'avais dit l'autre fois. Je pense que l'idée qu'on a de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de fixateurs d'azote dans l'écosystème, ce n'est pas forcément nécessaire. Il en faut bien évidemment, mais il y a plein de voies de biosynthèse de fixation d'azote. Hein, différents organismes, voilà, bactéries libres dans le sol, différentes plantes. On a aussi la voie atmosphérique. Les pollutions atmosphériques apportent beaucoup d'azote. Hein, la pollution industrielle qui, du coup, ramenée sur des hectares, ça fait à l'année pas mal d'apport d'azote aussi. Du coup, pour vous illustrer un petit peu ce propos-là, il y a un restaurant justement aux Pays-Bas dont la carte est exclusivement fournie par des produits issus d'un jardin forêt juste à côté. Alors, c'est quelque chose d'un peu élitiste parce que c'est réservé des mois à l'avance et je pense que c'est cher. Mais c'est aussi la preuve que ça peut être super bon la cuisine issue d'un jardin forêt et qu'on peut en tout cas développer quelque chose au niveau local mais qui seront beaucoup plus accessibles du coup aux personnes du coin. Alors quand on voit des mangues en magasin bio, alors voilà, c'est pas du bio puisque c'est bien de l'autre bout de la planète, mais on est sur des trucs à 8 ou 11 euros le kilo en général. Là, si vous produisez des azimines et que vous les vendez dans les marchés du coin, on peut vraiment diminuer le prix et puis proposer ça aux personnes. C'est aussi une forme de militantisme, hein, montrer par la production professionnelle qu'il y a d'autres choses possibles.
Est-ce que tu n'as pas le nom du resto?
Ouais, enfin j'ai le nom du ça c'est considéré comme le Martin Crawford des Pays-Bas, j'ai son nom mais c'est un nom, j'arrive jamais à le mémoriser, je te donnerai le lien. Si vous parlez hollandais, il y a à mon avis pas mal de ressources, ou des amis qui parlent hollandais, on en a dans le réseau. Du coup, grande valeur nutritionnelle, oui, parce qu'on voit la quantité. Alors bien sûr on peut produire en quantité, mais on produit aussi en qualité, hein, quelque chose qu'il faut un peu retravailler au niveau du consommateur, parce qu'on a un peu perdu cette logique là de vue, ce qui est bien dommage. Imaginez, on va produire du raisin, même du raisin bio qui va être produit dans un vignoble classique, et ce sera intéressant de faire un dosage nutritionnel entre ce raisin là et un raisin qui aura poussé dans un jardin forêt en accompagnement avec les arbres, avec un taux d'humus qui est maximal dans le sol, avec des conditions de vie qui sont complètement autres. À mon avis, on est sur des teneurs en minéraux.
Et du coup, est-ce qu'on peut manger, se nourrir uniquement de ce qu'on trouve dans un jardin forêt? C'est une question un peu extrême, mais...
Alors, à mon sens, oui, c'est tout à fait possible, parce qu'on a des arbres qui vont produire du feuillage comestible, on a des fruits, on a des noix... Et on a quantité de graines également, on mange des fleurs, on va avoir la possibilité de produire quasiment en toute saison, et puis après, pour les périodes hivernales, d'avoir des produits qui vont être conservés, en mode, pourquoi pas, de lactofermentation, produits séchés. On a aussi des plantes sauvages, donc qui sont une partie importante du jardin forêt, qui gagnent vraiment à être plus connues, donc qui peuvent être utilisées en période hivernale, où les hivers sont de plus en plus doux, et on peut récolter même au mois de décembre, au mois de janvier, ces plantes sauvages dans le jardin forêt. En plus des légumes hivernaux classiques.
Ok, est-ce que tu saurais nous donner comme ça, sans nous détailler les recettes, mais deux, trois choses simples à faire avec des plantes sauvages ou des choses qu'on trouve dans le jardin forêt, comme ça devient?
Ouais, alors avec par exemple des feuilles de tilleul. Le tilleul est utilisé, enfin est connu pour l'utilisation, on va dire, des inflorescences en tisane, mais la partie utilitaire et comestible sous forme de feuillage est un peu moins connue. Alors ça, on peut faire des super salades, hein, avec les jeunes pousses de printemps, des tilleuls justement européens, notamment le tilleul à petite feuille qu'on appelle Tilia cordata. On peut faire des pestos avec, donc vous récupérez les feuilles, vous les mélangez avec de l'huile, avec des noix, un peu d'ail ou pourquoi pas de l'ail des ours, qu'on aura aussi, qu'on peut faire pousser très facilement en jardin forêt dans des parties semi-ombragées avec une terre qui est bien humifère, et à ce moment-là vous avez un super pesto au final, et qui est très riche en micronutriments, qui est plein de chlorophylle aussi, et on sait qu'on a besoin de manger beaucoup plus de feuillage que ce qu'on fait actuellement.
Ok, donc déjà avec une ou deux plantes, on peut faire pas mal de choses en fait. Donc c'est assez utile à savoir. Avant de continuer à parler de choses sérieuses, on va s'offrir une petite pause musicale. Et puisque j'ai eu l'occasion d'écouter en boucle Piquons mon amour pendant les vacances, j'avais envie de vous passer un morceau qui n'a rien à voir avec notre sujet et qui s'appelle Le Missionnaire.
Je tends ta ligne sur mon cœur, que j'y sens battre ma fleur. C'est une trique bonheur. Comment tu me parles, je suis pas ta sœur. Comment tu dis non, j'ai pas fini. Oh, continue, vas-y, je t'en prie. Du missionnaire à l'infini. Oh, je suis aux anges, il m'a choisi. Et dans mon cœur, j'ai compris. Père vers l'amant, le mari. Ça jusqu'à l'aurore, vivant au plus loin de la mort. Serre-moi les fesses un peu plus fort et tiens le coup un peu encore. Après que ça sort, je sais que tu dors. Du missionnaire à l'infini. Ouais, t'es dans le trou, j'ai bien compris. t'as pas bientôt fini.
Nécessairement, je passe à la pratique parce qu'il y en a plein qui font des formations, des machins. À la Perma, je connais, j'ai trois plombes dans un pot. Oui, mais non, il va falloir vraiment agir. Donc, on peut discuter puis être en désaccord les uns avec les autres. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui plantent. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y a très peu de gens qui plantent, même chez les écolos, hein. Même chez les alternatifs, ceux qui font des trucs, j'en connais pas tant que ça, quoi. Mais le problème, il est là. Et pas d'être en désaccord nécessairement sur certains points précis.
C'est, on avait rencontré un ami qui est devenu un ami, qui est burkinabé, qui était aux rencontres de l'écologie à Dix.
Ouais.
Et alors ces rencontres de l'écologie, c'est vraiment un carrefour où il n'y a vraiment que des écolos, que des personnes qui sont contre tout ce qui se passe.
Des bonnes intentions.
Qui ont vraiment des bonnes intentions, qui veulent et tout. Et pourtant lui, il dit mais. Même ici, en fait, j'arrive pas à trouver des personnes qui sont prêtes à venir au Burkina planter des arbres. Ou, il disait, ne serait-ce que, si par exemple, ça fait 17 ans qu'il y a les rencontres de l'écologie, il dit si, à chaque fin des rencontres, on se dit, bah, allez, on va planter 100 arbres, et bien là, on aura déjà fait plus. Ouais.
Bon, c'est ça le problème aussi. Tout de leur environnement. Donc, il y a un chercheur en Italie qui s'appelle Dr Mancuso, si vous connaissez, il est assez impertinent en plus d'être génial. Et donc son truc, il l'appelle la neurobiologie des plantes. Là, c'est un pôle de l'université, Florence en Italie peut-être. Neurobiologie des plantes, donc comme si les plantes elles pouvaient penser et ressentir. Mais c'est ce qu'il décrit, elles ont 16 sens. Donc nous on en a 5, elles en ont 16, donc elles perçoivent absolument tout de l'environnement et donc elles s'adaptent en fonction de ça. Elles perçoivent de la même façon les couloirs de vent. Donc, ce qui veut dire que concrètement, quand vous implantez vos arbres en jardin-forêt, souvent, on vous préconisait auparavant de faire des tuteurages qui vont être relativement rigides. Hein. Et puis des fois, les gens, ils tuteurent l'arbre comme ça pendant 4, 5, 6 ans. L'arbre, il pousse, il est grand. Et après, ils enlèvent ça d'un coup. Premier coup de courant d'air, paf, l'arbre, il est cassé parce qu'il n'a pas pu s'adapter. Si vous êtes obligé de faire un tuteurage, il faut qu'il soit léger pour que le plant puisse accompagner les mouvements du vent. Quand il fait ça, il adapte complètement sa morphologie au couloir de vent qu'il perçoit. C'est-à-dire la forme ne va pas être la même. Même la densité des pétioles, donc ce qui relie la feuille au rameau, va être modifiée. Donc il a un profil aérodynamique qui est complètement modifié. C'est absolument passionnant. Si vous voulez aller plus loin, ça s'appelle la tigmomorphogénie. Ça, c'est intéressant quand je vous disais le dynamisme des paysages forestiers par rapport à d'où viennent tous nos petits plants fruitiers, hein, donc les cassis, les groseilles, les framboisiers. Si vous allez en bas de la parcelle du jardin forêt là-bas, je ne vous ai pas encore montré, on est, alors pas sur le terrain qui nous appartient, mais les petites poches de forêt autour, on est sur des spots de groseilliers sauvages. Donc vous allez dans ce sous-bois qui est super sombre, il y a des tapis de groseilliers sauvages partout, sauf qu'ils ne produisent pas de groseille. Mais ils s'étendent, ils drageonnent au fur et à mesure des années, sans arrêt, mais lentement, vraiment lentement. Alors ça, c'est exactement le contexte de vie de ces petits fruitiers. Ils vont être en latence, comme ça, pendant super longtemps. Tout d'un coup, il y aura un chablis, un vieil arbre qui va dégringoler, ça va rétablir une clairière, et là, ils vont être dans des faisceaux de lumière importants. Au fur et à mesure de la journée, ils vont produire des fleurs et des fruits. Et donc, les fruits, ils vont être disséminés, les graines, ils vont envoyer des graines partout dans le paysage. Après, au bout de quelques années, ça va se refermer. Ils vont revenir en latence. Et ils sont comme ça sur des choses qui sont cycliques, sans arrêt. Et nous, imaginez, on les a sortis complètement de ce contexte-là, foutus en pleine lumière toute la journée. C'est pour ça qu'ils restent très productifs dans des effets de mi-ombre. Mais que cependant, s'ils sont dans des ombres profondes, ils ne vont pas mourir. Mais par contre, ils seront plus productifs. Ça, c'est des photos du coup de la forêt de Białowieża, la dernière poche de forêt primaire. Vous pouvez vous faire passer, si vous voulez, le doc. Alors, vous voyez, hein, ce n'est pas du tout une forêt refermée telle qu'on peut l'imaginer. C'est des mosaïques de milieux comme ça qui sont complexes, des espaces ouverts, des espaces refermés, en dynamisme comme ça, grâce aux animaux. Donc, vous avez des lynx, vous avez des ours, des loups. Tous les animaux qu'on a exterminés sous nos latitudes existent encore là-bas. C'est en danger parce que les Russes et c'est en Pologne, ouais, et les Polonais du coup commencent à organiser des safaris pour que les riches aillent pouvoir tuer leurs bisons et leurs.
Et alors je vais te poser une dernière question pour le mot de la fin. Du coup, aujourd'hui, la Forêt Gourmande, c'est une association. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et peut-être c'est le moment de nous dire quelles sont les prochaines étapes.
Oui, alors la Forêt Gourmande, c'est effectivement une association qui est relativement récente, mais il y a déjà énormément de bénévoles, de personnes qui viennent du coup apporter leur soutien, leurs compétences, leurs connaissances, leur joie de vivre, et du coup c'est super parce qu'on va développer une pépinière associative pour proposer des plans de jardins forêts qui pour la plupart sont quand même relativement chers, voire difficiles à trouver. Donc l'idée c'est de diffuser au maximum ces plantes, c'est d'accueillir davantage de classes, aussi de faire connaître vraiment la technique, la promouvoir. Donc on fait des conférences, on fait des ateliers découvertes, des visites commentées. On va travailler sur différents supports, notamment un ouvrage qui sera disponible à la fin de l'année pour apprendre à concevoir ce type d'espace nourricier. On est aussi sur ce qui nous intéresserait énormément, c'est une fois que des bénéfices seront assurés dans l'association, c'est de pouvoir après nous intervenir gratuitement sur des projets collectifs où les gens ont peu de moyens, arriver avec justement une palette végétale et des connaissances, et de travailler du coup avec le collectif pour mettre en place ce type de jardin forêt. Alors en France, on a aussi des projets plus à l'international sous les tropiques, dans le bassin du Congo, du coup avec l'association Pivouac, dont la présidente qui est Amandine Renaud, qui est une primatologue, et qui protège des chimpanzés du coup dans le bassin du Congo avec les populations, les villageois aux alentours. L'idée c'est de proposer un modèle d'agroforêt sous les tropiques pour pouvoir permettre l'autonomie alimentaire l'autonomie alimentaire des peuples, du coup la sécurité alimentaire, et ils n'auront plus besoin à ce moment-là d'aller déforester pour du bois de cuisine, du bois qu'ils ont besoin dans la vie quotidienne. Ils vont pouvoir produire leur nourriture et donc ils n'auront pas la nécessité d'aller de plus en plus loin pour déforester dans les forêts primaires. Donc on est sur des projets qui sont globaux et qui sont absolument passionnants, et un travail est encore en réseau. L'idée globale étant vraiment de diffuser ça et de travailler avec l'intelligence, l'aspect absolument génial du règne végétal.
Pour tout ça, il y a besoin de bras, donc heureusement qu'il y a beaucoup de bénévoles, on espère qu'il y en aura de plus en plus. Merci Fabrice.
Merci Pauline.
Ah mais combien je vous vois ?